France Inter.
Vous dit, avec Elisa Desmoitiers, avec Camille Lavard, avec Julie Gonti, Paul Delaf, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité, monsieur Jean-Christophe Ruffin.
Ah oui,
la bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Jean-Christophe Ruffin qui signe Le Revenant d'Albanie chez Kalman Levy. Asseyez-vous, Jean-Christophe, prenez votre temps. Il est tranquille.
Et voilà. Il nous offre ses livres dédicacés.
Très gentil, absolument.
Faire une petite tape dans le dos.
Comment ça va, Jean-Christophe?
Ça va très bien, ça va très bien. Je suis ravi de vous voir.
Le Revenant.
Comme Aurel.
Avec ce... On en est au combien épisode d'ailleurs de...
Sixième.
Ok.
Sixième, et vous m'avez reçu pour le premier.
Et pas le dernier. Clairement pas.
On verra bien.
Non.
Je suis sûr que vous avez déjà une idée.
Oui.
Déjà. En tout cas, là, on se retrouve en Albanie. Ça commence par un meurtre commis. Ça commence aussi par un rendez-vous. Ça va, Camille? T'es juste en train de vérifier que t'as rien entre les dents.
En fait, Leïla nous a offert des petites pâtisseries au pavot délicieuses. Et je vérifiais s'il n'y avait pas du pavot entre les dents.
Pour rester digne.
Mais tu en as. Et moi aussi.
On en a tous.
On n'arrive pas à s'en débarrasser.
Elle était avec son téléphone en selfie en train de regarder entre les dents.
Si pas et j'en avais en plus.
Excuse-moi d'avoir relevé ça. Je suis désolé.
Un gâteau yaourt la prochaine fois.
Le Revenant donc d'Albanie avec ces deux madeleines Aurel, c'est-à-dire jouer du piano et boire du vin blanc. C'est son truc.
L'un après l'autre ou en même temps.
Exactement. Son violon dingue, entre guillemets, étant ce piano. Petit tour de table pour savoir vous si vous avez un instrument ou si vous aimeriez avoir un instrument de prédilection, Leïla Desmoitiers.
J'ai essayé le piano, j'ai essayé la guitare, mais ça prend pas.
Ah ouais.
Rien n'a pris.
Non.
T'as essayé le solfège d'abord?
Non. Ah, c'est peut-être.
Comment faire de la musique? Camille, est-ce que tu as un instrument de prédilection?
Je sais hélas pas jouer d'instrument, mais j'aurais rêvé le piano.
Le piano, t'aurais rêvé.
Ah oui.
D'accord. Julie Conti?
Moi, j'ai fait de la flûte, du piano et de la batterie, et j'ai rien réussi à faire. J'ai même fait du solfège, et j'ai redoublé. Mon prof a dit que c'est la première fois que quelqu'un redouble le solfège. Donc, je suis vraiment pas, okay, pas bon, à l'oreille, quoi.
T'aurais essayé.
Oldelaf, on sait que t'as du mal avec la guitare.
Exactement. Tous les matins, je galère, je continue les cours. Non, je rêverais de faire de la contrebasse un jour. Voilà.
Oh wow.
Parce que
ça m'a toujours fasciné, la beauté de l'instrument, la résonance, les graves. Ouais, je trouve ça hyper
sexy. Ah non, alors sexy, pardon. Sexy, pour moi, c'est le saxophone.
Non.
Le son du saxophone.
Ah, si, bien sûr.
Non,
la basse.
Sexy, pour moi, c'est le silence.
Tu n'as joué d'aucun instrument en tant que
non, et j'aurais adoré jouer du piano pour être cette personne dans les gares qui joue et que tout le monde filme et ensuite on se retrouve sur Instagram alors qu'on n'a rien fait comme vidéo parce que ce sont les autres qui vous filment. Et j'aurais adoré être cette personne qui met de l'ambiance à la gare de Dax. Mais juste à Dax.
Oui.
Et à Mont-de-Marsan.
Il a Agen aussi. Moi j'ai fait de la flûte à l'école, mais vraiment je le dis.
On a tous fait de la flûte. Mais ça veut dire qu'on était flûtiste.
Non, mais je le dis, je l'ai fait avec fierté et joie pendant 4 ans, mais de façon intensive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où je ne faisais pas de la flûte. Je rentrais, je faisais de la flûte, tout le temps. Et donc j'aurais rêvé.
Et pourquoi tu as abandonné?
Parce qu'à un moment, on est passé au lycée, on faisait de flûte. Quoi.
Elle fait quand même le JT. Hein,
si je faisais encore la flûte.
C'est pas du pipo.
Ok, Daniel,
un instrument.
Non, attends, j'ai pas fini. Parce que j'aimerais faire du piano. J'aimerais jouer du piano.
Aussi, tout le monde, piano.
Parce que je trouve ça, c'est tellement exceptionnel, le piano. Être seul face à un clavier, faire des partitions, ça doit être superbe.
Ça l'est.
Tu veux, hein, tu veux pas, Olivier?
Mais si, je dis, tout le monde peut se mettre au piano. Ouais. Il est jamais trop tard.
On cherche un bon prof. Si vous êtes bon prof de piano,
je prends très cher.
Daniel, t'as pris cher déjà.
La vie m'a fait mal de le dire, mais comme Oldelaf, que j'adorerais la contrebasse, je trouve que c'est le truc le plus sexy.
Ah ouais.
Ouais, t'as les vibrations.
J'ai essayé la guitare, mais
Ça n'a pas,
pas pris.
Non, ça n'a pas accroché. C'est-à-dire que très gentiment, ma maman m'avait donné des cours, offert des cours de, avec un prof de musique classique, mais donc la guitare entre les jambes avec Narcisse Coyépès et Les Jeux Interdits. Et en fait, moi, tout ce que je jouais, c'était jouer Highway to Hell, évidemment, et les Rolling Stones. Mais je trouve que la guitare a ce côté pratique de pouvoir aller un peu partout et de jouer avec son instrument. Alors que le piano, t'es quand même, le piano, t'es quand même obligé d'être dans une gare. Si tu veux, c'est quand même plus réducteur. Ouais. Et vous, Jean-Claude Christophe Ruffin, jouez-vous du piano?
Ben non, justement, et moi j'aime bien créer des personnages qui font ce que je fais pas, quoi. Ouais, alors, jouer mon premier roman, j'avais pris un botaniste, quelqu'un qui avait la main verte, alors que moi, avec une plante, je la fais crever en une semaine. Et là, et c'est pareil, je veux dire, il joue du piano, mais il faut dire qu'il joue du piano pour des raisons particulières.
Oui.
Et quand il avait été racheté par sa famille, c'est un Roumain d'origine, et à la période chez Ceaușescu, il a été racheté par sa famille.
Aurel
Timescu. Il est arrivé en France, et il savait pas faire autre chose, alors il jouait dans les bars.
Les bars,
voilà.
Et ça lui permet de résoudre un peu les énigmes aussi. Enfin, il sait faire plein de choses, mais vous aussi, vous êtes médecin, vous êtes diplomate, vous êtes académicien, vous êtes auteur, vous êtes, enfin, je veux dire, dans la catégorie alpiniste aussi.
Non, c'est pas la même chose, non, arrêtez. Pas de fausse modestie.
En tout cas, me demandez pas de jouer d'un instrument, parce qu'il fait très beau dehors, là, et tout d'un coup, on aurait des orages.
Si on veut savoir ce que vous savez pas faire, il faut lire toute votre œuvre.
Est-ce que c'est... Non, mais Leïla a raison, vous avez plusieurs vies.
Oui, j'ai plusieurs vies, mais c'est vrai que, par exemple, la musique, c'est un de mes grands regrets, quoi. Mmh. Et on me dit toujours, tu peux t'y mettre, c'est encore
c'est ce que vient de dire Oldelaf, oui.
Oui. Mais je sais pas.
Est-ce que c'est rassurant?
Que de la pédie. Non, mais en même temps, il y a, pardon, je pense qu'il y a
un
problème. Il y a un problème. Non, il y a un problème d'oreille. Surtout, il être juste, être faux, non.
Non, mais genre le piano est un instrument juste quoi qu'on joue,
c'est pas le violon.
C'est ça, ouais, exactement. Ouais.
Et puis de temps aussi, il faut quand même s'y consacrer.
Voilà, il faut du temps.
Arriver à avoir un certain niveau, et c'est souvent ce qui manque en fait.
Il faut l'indépendance des membres. Il faut main droite, main gauche. Il faut
ça. Non, mais ça vient très rapidement. Non, non, honnêtement, je conseille vraiment. On peut s'y mettre, même très tard.
Okay. Il est encourageant.
Il est
encourageant. Il est Oldelaf et il est fan de Jean-Christophe Ruffin.
Évidemment.
Je suis fan de Jean-Christophe Ruffin. Je suis fan de l'homme et de l'académicien. En 2008, vous êtes devenu un immortel, c'est sûr. Vous êtes le Christophe Lambert de la littérature. Je suis fan de Jean-Christophe Ruffin. Je suis fan de l'homme et je suis fan du médecin. Vous avez été un héros de l'humanitaire, comme si quelqu'un de bien avait fait du Bernard Kouchner. Et vous êtes là pour le revenant d'Albanie.
Ouais.
Ça parle d'Alil Varda et de sa future vie. Ah non, c'est une aventure d'Aurel le consul qui retrouve un cadavre qui était déjà mort. Bah c'est nul. Ouais, je suis fan de Jean-Christophe Ruffin et de sa saga. Je la trouve tout bonnement divine. Du coup, c'est plus que saga, c'est aussi maga. Mais non, c'est pas possible, c'est de la maga. Ruffin, le revenant d'Ababababababani. Le revenant d'Ababababababani. Ouais, saga, c'est maga, c'est maga. Ruffin, levez les mains pour Jean-Christophe Ruffin. Il paraît si jeune, on dirait un gamin. Levez les mains pour Jean-Christophe Ruffin. Oh non, il y a les auréoles, pas toi, ouais, je suis fan d'Aurel le consul. Et puis bravo, c'est quand même la contrepétrie de son culeux héros. Vous êtes notre invité, on vous fera pas demain. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Il a osé consuler son cul, mais c'est pas possible.
Et ça fait de son cul le
héros. Oui, j'entends.
Alors, il y a sûrement des dates, mais j'ai des auréoles, j'arrive pas à les lire.
Oh, il est vexé.
En 2026, au Folies Bergère.
Exactement.
À l'Olympia, puis c'est complet. On se demande pourquoi.
Il fallait chercher une contrepétrie dans Aurel le consul.
Bah, j'étais tellement fier de toi.
Est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable?
Il y a pas du temps.
Pardon, Jean-Christophe.
Mais non, c'est mérité.
Pas sûr. Tout commence par une bonne nouvelle. Il semblerait qu'Aurel soit enfin reconnu et pas baladé dans une énième ambassade dans un poste.
Puis considéré.
Ouais, c'est ça, oui. Ça commence comme ça, en tout cas.
Oui, parce qu'Aurel, j'ai commencé les Aurel quand j'étais rentré du Sénégal. Mmh. J'avais été ambassadeur 3 ans et j'avais des tas de collaborateurs, dont un
qui ressemblait un peu à Aurel.
Un petit peu, voilà. Voilà. Et surtout, moi, les affaires consulaires, ça m'a toujours passionné. Le consul, il fait quoi quand il ne fait pas de contrepétrie? Il s'occupe des
administratifs,
surtout de nos concitoyens. Ouais. Et il fait ce que personne d'autre ne fait, c'est-à-dire le Français qui est à l'étranger, qui perd ses papiers, qui se fait agresser, qui se fait... voilà, et bien, c'est le consul qui le protège. Voilà.
Ouais, qui est la référence. Voilà. Ouais.
Moi, j'avais travaillé il y a... Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. Disons que j'étais diplomate.
Ils vont être contents.
Très longtemps au Brésil, et je me souviens que c'était à Recife, le consulat, il était au 9e étage. Et les gens qui venaient, c'était des Français qui, en général, se faisaient piquer leurs papiers pendant qu'ils se baignaient sur la plage. Donc, ils étaient à poil, ils étaient en maillot de bain. Et il y avait un liftier qui leur disait, le consulat était au 9e étage, vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur dans cette tenue. Donc non seulement ils s'étaient tout fait piquer, mais ils faisaient 9 étages à pied en maillot de bain. Voilà. Et le consul, c'est vraiment quelqu'un d'important.
Et qui se retrouve donc là, cette fois-ci, muté en Albanie, où il retrouve d'ailleurs d'anciennes connaissances, des références.
Il n'y va pas avec grande joie, hein, l'Albanie. Il ne saute pas au plafond quand on lui promet un avancement et qu'on lui dit c'est l'Albanie. Aurel n'est pas hyper excité.
Oui, bah, il a tort, parce qu'il découvre que c'est un pays formidable, et ça je confirme, parce que c'est... Moi je ne pars jamais d'un pays sans y être allé. Oui. Et vraiment l'Albanie, je suis allé à plusieurs reprises, je suis allé quand le communisme est tombé en 80... je suis arrivé vers 97, là, en pleine guerre civile et tout. Bon, c'était un pays qui était par terre, quoi, qui avait beaucoup souffert, et puis aujourd'hui, c'est une des premières destinations touristiques.
Il y a énormément d'investissements là.
Oui, il y a beaucoup d'investissements. Pourquoi vous avez...
J'ai mis des billes en Albanie.
Alors oui, mais justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que les investissements touristiques s'y fassent et que des grands resorts s'y installent, ou est-ce que on reste dans la pureté de ce pays et de ses traditions, parce que vous appuyez aussi beaucoup, et c'est la force de votre roman, sur non seulement les traditions mais ce qui fait partie de l'ADN, on a l'impression en Albanie, peut-être ADN un peu mafieux.
Ouais, je dirais pas ma fille, c'est-à-dire que c'est un pays qui a...
Oui, des brouillards.
C'est une histoire, quoi.
C'est un pays qui a gardé son identité malgré des invasions de toutes sortes. Tout le monde a conquis ce pays, tout le monde est passé. Les Romains, les Grecs, avant la guerre, les fascistes, évidemment, la dictature de Enver Hoxha, ensuite, voilà, les Ottomans, enfin voilà, ils ont été envahis un peu par tout le monde. Mais ils ont gardé leur langue, leur identité et leur tradition, c'est-à-dire leurs lois. Voilà. Et ces lois...
Parmi ces lois, il y en a une...
Elles sont pas super tout le temps.
Alors, quel noun?
Le canoun. Oui. Le canoun, c'est un texte... probablement, ça remonte très loin. Ça doit remonter...
Alexandre le Grand.
Oui, voilà, oui. C'est une tradition orale qui fixait toutes les règles de la vie civile. C'est une sorte de droit civil et de droit pénal, si vous voulez, mais à l'usage des paysans. C'est-à-dire, voilà, je veux acheter une terre, comment on fait, combien les droits, etc. Voilà. Et... quelque chose de particulier, en effet, qui fait toute la force, et puis le côté un peu inquiétant de cette loi.
La vengeance.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est probablement le seul pays, c'est pas le seul pays où il y a des vendettas, mais c'est le seul pays où les vendettas sont basées sur des textes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une atteinte à l'honneur?
Qu'est-ce qui se règle par le sang? Qu'est-ce qui se règle par l'argent?
Par l'argent. Voilà.
Ouais. Alors, il y a des choses qui ne peuvent pas être vengées autrement que quand tu tuant la personne qui vous a.
Sauf que ça s'arrête pas juste une fois qu'on a vengé. Parce que c'est ça, à la limite. On pourrait se dire, tiens, quelqu'un a tué dans ma famille, eh bien, je vais tuer dans la famille opposée. Ah eh ben non, c'est que ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête pas, parce que quand vous avez tué, vous avez vengé la personne qui vous a insulté, bah, c'est à votre tour de vous enfermer, de vous planquer le temps.
C'est ça.
Que éventuellement on vous abatte.
Sauf si on met tous ses enfants au couvent.
Voilà, c'est ça. Oui, mais alors il y a des règles précises.
Et il y a des lieux précis.
Voilà, il y a des lieux.
On peut appliquer ou non cette vengeance au pont près, au parking près, à la rue près.
C'est ça. Il y a des rues et des voies. C'est pas des rues d'ailleurs, c'est plutôt des chemins de campagne qui sont protégés. Et puis il y a des lieux, par exemple les cascades ou les moulins à vent. Ouais. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un devant une cascade ou un moulin à vent. Pourquoi?
À cause du silence qu'il faut.
Voilà, à cause du bruit, parce que ça couvrirait votre voix. Et comme vous devez, quand vous vous vengez, dire qui vous venez venger. Oui. Si la personne n'entend pas, c'est pas valable. Ça,
il faut que le corps soit dans une position précise,
retourné,
après avoir été tué ou abattu. Ouais.
Voilà. Et tout ça est marqué. C'est voilà. Écrit.
Non, mais il y a une forme d'élégance là-dedans.
Hein. Mais non, ça va pas.
Non, mais, c'est... non, mais je veux dire. Non, mais le fait mais, de ne pas tuer. De pas
moi,
tuer
je propose
un...
qu'on relance cette tradition. Allez.
Non, mais de ne pas tuer dans un endroit où on ne pourrait pas t'entendre. Il y a une forme aussi, pardon. C'est-à-dire qu'on ne te prend pas complètement en traître. Il y a des.
C'est très romanesque.
Il y a des lois en vigueur. Quoi.
Mais ça va pas.
On peut
mais
pas si. Se planquer dans la montagne non. à 200 mètres avec un fusil à lunettes. Tu vois voilà.
Ça, non, c'est non. un peu mesquin. Ouais.
Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais on est où là
non, je suis d'accord avec toi.
Dans une faille spatio-temporelle. Les trois. Oui, non, c'est bien de tuer.
En disant... de tuer avec honneur.
Et en disant pourquoi.
Oui, l'honneur.
Pourquoi et puis de retourner le corps.
Pour qu'il te regarde.
Pour qu'il te défigure. Mais mort. Voilà.
Tu vois, le problème, Nagui, c'est que toi, tu fais tuer les gens. Tu
fais pas toi. Donc nous, on le fait sinon... nous-mêmes.
Ouais. Si seulement je pouvais, tu serais plus là, tu sais.
Il y a de fortes chances.
Ah bah, Dany.
Enfin. Oh, si, moi, tu...
Ah ouais, premier.
Plus maintenant.
Fut une époque.
Est au courant. Jean-Christophe Ruffin nous emmène donc vers ce pays, vers cette Albanie, avec ses traditions séculaires et avec son évolution aussi, parce qu'il y a d'un côté la tradition donc de tuer jusqu'à ce que les générations finalement s'épuisent. Il y a quand même une limite, il y a quand même un moment où cette pyramide inversée s'arrête. Si j'emploie le terme de pyramide inversée, c'est parce qu'il y a une autre pyramide aussi qui compte dans votre roman, qui n'a pas été que en Albanie. Plusieurs ont été victimes, notamment de croire qu'en investissant de l'argent, on pouvait se retrouver avec une fortune du jour au lendemain.
C'est-à-dire, il faut imaginer un pays qui avait été coupé du monde pendant 50 ans pratiquement, avec Enver Hoxha qui en avait fait une sorte de camp de concentration, on peut dire, qui s'était fâché avec tout le monde, avec Staline, avec Mao, etc. Il était complètement
isolé.
Parano, isolé, il y avait des bunkers partout, etc. Donc quand ça s'est effondré, ça... Ils ne connaissaient pas le capitalisme, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il y a des banques qui se sont installées puis qui ont dit, ben, tiens, on va vous proposer des revenus formidables. Alors tiens, 30% par mois. Alors les gens disent, c'est formidable. Alors ils ont vendu leurs troupeaux, ils ont investi, etc. Puis évidemment, ça s'est cassé la figure puisque c'était des pyramides de Ponzi. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont alimentées que par des nouveaux fonds. Dès qu'on retire, ça s'effondre. Oui. Et donc, ça a été un point...
Et c'était le cas dans le monde entier, pas uniquement.
Dans le monde entier, mais là, ça avait pris, disons, compte tenu du fait...
Même Elon Musk dit que la sécurité sociale, c'est une pyramide.
Oui,
ce qu'il a dit.
Oui. Bah, qui ne s'est pas encore effondré. Hein. Donc, ouais. Mais là, elles se sont effondrées très vite. Et ça a été la guerre civile. C'est-à-dire qu'ils se sont... Et les migrations albanaises, les gens qui sont partis, qui sont venus en Europe de l'Ouest, etc., c'est à ce moment-là. Ce n'est pas le communisme qui les a fait fuir, c'est l'effondrement
des pyramides. Le capitalisme abusif.
Bah, d'une certaine façon, cette espèce de passage brutal, comme ça, un libéralisme sans règles. Quoi.
Ce revenant d'Albanie, évidemment, c'est une enquête aussi policière, mais la force de vos romans, Jean-Christophe Ruffin, c'est que moi, vous m'avez fait découvrir l'Albanie que je ne connais pas. Je la connais pas plus aujourd'hui, si ce n'est que maintenant j'ai envie, en tout cas, de la connaître tellement vous la décrivez dans ses couleurs, dans ses humeurs, dans ses ambiances, dans les détails architecturaux, les places, les routes et les paysages. Mais tout ça avec une toile de fond, évidemment, d'une enquête et avec aussi le danger que court Aurel le consul, c'est-à-dire que ça, il peut mettre sa vie en danger en allant justement mettre le doigt au milieu de cette mafia, au milieu de ces règles qu'il veut élucider parce qu'il y a quelqu'un d'une double nationalité et française et albanaise, donc il est concerné par cette enquête, même s'il y a un policier. Il y a des personnages, il y a des vrais caractères dans tous les sens du terme autour de lui qui sont truculents et une présence féminine aussi très importante. On en parle, c'est publié chez Calman Levy Collection Noire, on en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Lisa Delmoitier.
Ah oui Lisa !
Bravo ! Est-ce que vous, Lisa, vous n'auriez pas écrit un roman policier comme ça ?
Mais non, parce que derrière cette histoire d'Albanie, de disparition, de bonne façon de tuer quelqu'un, dans le plaisir à Nagui, c'est aussi l'histoire d'un consul qui accepte d'évoluer dans son taf. On le promet avec un poste en Europe, mais qu'est-ce que je me tue à répéter avec les promotions ? Faut jamais accepter. Qu'est-ce que c'est une promotion ? C'est des emmerdes. Voilà ce que c'est. Hein. Rappelez-vous, le Nag, quand vous m'avez dit, Lisa, si t'écrivais une chronique quotidienne. Ah là. Et vous savez ce que j'ai répondu, Jean-Christophe ? J'ai répondu oui.
Oui, sinon je ne serais pas là. Je suppose que je n'étais pas insoutenable non plus. Oui, suivez un petit peu, Jean-Christophe, s'il vous plaît. Merci. Moi, on me propose une chronique en quotidienne sur France Inter. Ça fait classe sur un CV. Donc je dis quoi ? Je dis oui. Oui. Ça va ? Parce que je ne savais pas.
Un peu de respect, Lisa.
Que je ne savais pas, pardon. Et il est là le piège qui vous tend les puissants. C'est qu'être chroniqueuse en quotidienne, ça veut dire que tu dois écrire tous les jours. Oui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, quotidienne. Je crois que c'était le nom des nostalgiques de l'ancien président René Coty. Ah oui. Hein, Taylor Swift, c'est Suffy. Claude François, c'est Claudette. René Coty, c'est quotidienne.
Bon. Oh, je viens de comprendre.
Oui, bah, oui, bah, oui. Je rappelle qu'il faut être là tous les jours. Hein. Bon, et votre consul, c'est Aurel, qui est envoyé en Europe, en Albanie. J'avoue, voilà, moi non plus, je ne connais pas beaucoup l'Albanie. Je n'y suis jamais allée. Je sais juste que parmi les Albanais connus, il y a Mère Teresa et Dua Lipa. Donc quand même, s'il vous plaît, rien de moins qu'une sainte, puis aussi une meuf qui a fait un truc avec les lépreux. Mais sauf qu'à peine arrivée, les emmerdes commencent, ce qui est d'ailleurs le cas quand tu débarques en Europe, que tu sois consul, que tu sois migrant, que tu sois touriste. Migrant, t'es un peu déçu de l'accueil, t'arrives en Europe. Et ça, c'est l'extrême droite, ok. Ils veulent que je rentre dans mon pays en guerre, ok. Mais ça, c'est des escargots. Vous mangez ça alors que vous n'êtes pas en guerre, ok, très bien. Touriste, petite déception aussi quand t'arrives en Europe. Hein. Vous ne me croyez pas ? Prenez le RER Charles de Gaulle, Gare du Nord. L'autre jour, j'ai vu trois Américaines chialer devant les chiottes à tourniquet face au Carrefour Express. But where is Amélie Poulain? Amélie, elle est partie en pause. Elle fume sa clope devant le Starbucks. Et ça ne rate pas en Albanie non plus. Le Aurel débarque et se retrouve, on l'a dit, à devoir enquêter sur un mec qui est mort deux fois. Ouais. Et alors, moi, j'aime le travail bien fait. Hein. Mais mourir deux fois, c'est quand même un niveau de perfectionnisme que j'espère ne jamais atteindre. Mourir, c'est la seule expérience qu'on ne peut faire qu'une fois, normalement. Hein. Avec perdre sa virginité, c'est vrai. Ou dire, attends, la fin, peut-être ça finit bien, Titanic. Peut-être ce serait bien si on pouvait répéter sa mort si on la foirait. Hein. Moi, j'ai trop peur de me merder. Tu peux réussir ta vie, mais rater ta mort. Ça laisse des traces. Elvis Presley, plus grand vendeur de disques de tous les temps, responsable à lui seul dans la génération des baby-boomers de 30% des ventes de prothèses de hanches, mais aussi mort sur les chiottes. Eh ben, ça laisse des traces. Mais non. D'après les témoins sur place. Donc, je trouve qu'on devrait avoir droit à un joker si on meurt en déposant les enfants à la piscine, dirons-nous. Hein, c'est une expression.
Mais oui, je vois. Encore une bonne journée.
J'ai un peu, ouais. Allez, toboggan. Non, j'ai un peu divagué, Jean-Christophe, c'était pour pas spoiler votre livre. Mais je m'arrête ici, pas de stress, je reviens demain. Je suis là en quotidienne.
Merci. Il n'a pas compris.
La chronique.
C'est coulé en bronze.
Non. Déposer les enfants.
C'est coulé en bronze. Tu la connais pas, cette expression.
Je connais pas cette expression.
Et coulé en bronze non plus. Regarde la position du penseur et tu comprendras ce qu'il fait.
Et la sculpture.
Jean-Christophe Ruffin avec ce revenant d'Albanie et cette Aurèle qui est un peu vous. Quand même.
Sauf le piano, quoi.
Oui. Mais le vin blanc, oui.
À la rigueur. C'est pas ce que je préfère, mais bon.
C'est quoi alors?
Le rouge.
Les vêtements, la tenue vestimentaire d'Aurel aussi, ça compte.
Oui, mais il s'habille comme ça parce que quand il était en Albanie, toujours à l'époque chez Ceausescu, il regardait des films français, les seuls qui étaient autorisés parce qu'il y avait une censure. Donc on lui montrait Jean Gabin, Pierre Freinet, etc. Donc il, pour lui, l'élégance, c'était ça. Oui. Donc il essaye de s'habiller, mais malheureusement... Il s'est passé des choses.
Et toujours un peu trop chaud par rapport au climat.
Toujours un peu trop chaud.
comment définir, parce que c'est une enquête policière, Lisa Delmoitier l'a dit, quelqu'un est mort deux fois déjà, ça met la puce à l'oreille en disant comment est-ce possible, mais c'est pas un enquêteur façon les experts où il va aller chercher des techniques modernes. La chose la plus moderne qu'il y ait, ce sont des drones dans le livre. C'est plutôt dans l'esprit, dans le mental, dans le raisonnement, dans l'intellect, en fait, qui fait son enquête.
Oui, tout à fait. Mais l'histoire du drone que je raconte dans le livre, j'utilise dans le livre, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est un drone de la police qui s'est fait bouffer par un aigle.
Y a des... Ce qui n'est pas crédible, quoi. On a un peu
alors,
honte.
C'est pas crédible, ouais, c'est mais c'est le pays des aigles, Albanie, vous savez, oui. On appelle...
Des doubles, même.
Et donc là, l'aigle, il a vu un drone, il s'est dit, ce doit être un copain, il a sauté dessus, il l'a bouffé. Non, c'est pas du tout des polars... technologique, pas du tout, du tout, c'est le contraire même.
Non, mais c'était comme sa manière de résoudre les enquêtes, est beaucoup plus humaine et
humaine, voilà. Et puis, il est dedans, c'est-à-dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, il prend des risques, il peut se retrouver kidnappé, ce qui est arrivé dans de précédents épisodes, là, il se met vraiment en danger.
Ou une balle perdue dans une montagne, finalement, voilà. ni vu ni connu, puisque Leïla aime bien ça, et Daniel aussi, on peut tuer quelqu'un.
Il ne faut pas oublier qu'il ne veut rien faire. Problème, par contre. C'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Mais en revanche, quand il se branche sur une enquête, et quand il y a une injustice, surtout c'est ça qui l'intéresse, il y a une injustice, alors là, ça le mobilise complètement, et il est prêt à tout. Et c'est vrai que c'est...
Et ça, c'est vous.
Il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que moi aussi, j'aime pas qu'un innocent soit accusé à tort, ou que... Voilà, c'est plus d'ailleurs l'innocent accusé à tort qui l'énerve que le coupable qui ne serait pas coupable ou qui serait en fuite, parce qu'il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'essayer d'approcher quand même la vérité. Et dans cette histoire-là, cet homme mort de foi, en fait, qui n'est pas vraiment... qui meurt vraiment au début du livre, c'est une histoire finalement qui l'émeut parce qu'il y a cet homme, mais il y a surtout ceux qui laissent derrière lui.
Sa famille. Voilà.
Et le fait de retrouver cette famille, d'essayer de souder un petit peu de mettre une continuité dans cette histoire,
il y a un passage qui est très émouvant, qui est une photo évoquée d'un papa avec la fille qu'il tient dans ses bras, mais on ne voit pas le visage de la fille, on l'imagine. C'est extrêmement émouvant et touchant parce que on comprend qu'il y a de l'amour et ça amène un ingrédient supplémentaire à l'enquête.
Parce que en réalité, les mobiles dans ces enquêtes, c'est toujours une souffrance en fait. Les gens se mettent en danger par amour, parce qu'ils veulent retrouver quelqu'un qu'ils aiment, parce que... Voilà, alors on ne peut pas...
Oui, sauf que là, l'enquête est autour, justement, de règlements de comptes de génération en génération, et où on finit par se perdre, à ne plus savoir pourquoi on se déteste entre clans et pourquoi on se tue mutuellement.
Oui, mais alors, il faut savoir que dans la vendetta albanaise, il y a ce qu'ils appellent l'arbre du sang et l'arbre du lait, c'est-à-dire que l'arbre du sang sont les hommes, et l'arbre du lait sont les femmes, et on ne peut se venger que sur les hommes. Et pas sur les prêtres, d'ailleurs, non plus.
Oui.
Et donc, en l'occurrence, ça met le doigt sur quelque chose d'assez douloureux. C'est que quand vous avez ces vengeances, vous avez des gens qui restent, des enfants, des veuves, des gens qui restent seuls, finalement, et qui sont séparés par ces vengeances.
Oui, mais on a l'impression quand même que tout le monde accepte cette règle en disant « c'est comme ça, c'est notre...
Oui, »
C'est le mode de fonctionnement, c'est le code.
Donc, oui, alors, de moins en moins, parce que...
Je parle du roman.
Ah oui. Non, la période communiste a été très très combattue, c'est vendetta, mais ça perdurait complètement parce que il y a des films d'ailleurs, je donne la référence à la fin de où on trouve sur YouTube, vous trouvez des films de gens qui sont interviewés qui disent oui, j'ai vengé un tel, j'ai tué un tel, c'est vrai qu'ils le disent face caméra comme ça et tout.
À la fin, vous remerciez beaucoup de monde et vous dites qu'il y a beaucoup de ressemblances et beaucoup de personnes qui existent sauf l'ambassadrice.
Non, l'ambassadrice
comme si vous excusiez finalement de...
Non, mais parce que c'est pas celle-là. C'est-à-dire que moi, j'aime bien soit changer de pays, c'est-à-dire d'écrire un pays sur un autre, soit changer les personnages, parce que sinon, c'est trop facile. À ce moment-là, tout le monde va se pointer en disant l'ambassadrice. Fait... Bon, non, c'est pas elle, mais... C'en est une autre, je dirais, voilà, que j'ai mis là.
Un véritable voyage, en tout cas, dans tous les sens du terme. Hein. C'est ça qui est fort. Il y a de réels passages qui sont des passages... de contemplation, je ne sais pas si vous acceptez ce qualificatif, parce qu'on sent d'abord que vous avez été en Albanie, que vous savez de quoi vous parlez et ce que vous racontez, et de l'autre côté il y a ce suspense qui est étayé par la réalité, par l'histoire, par une documentation faite, et c'est là où c'est encore plus prenant, c'est de se dire que tout ça pourrait être extrêmement réel.
Oui, c'est pas du tout... c'est vraiment ancré dans une réalité qui fait que c'est tout à fait possible.
Oui, mais c'est votre imagination qui a trouvé ses racines dans la réalité.
Je bricole un certain nombre de choses qui sont toutes réelles.
Ouais. Jean-Christophe Ruffin, le nouvel épisode, je sais pas comment le qualifier, volume des aventures d'Aurel le consul, ça s'appelle Le Revenant d'Albanie, chez Kalman Lévy. Voici Camille Lavard.
Bravo.
Bonjour tout le monde. Non, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, Jules était en concert au Stade de France. On a vu des images très émouvantes de 98 000 personnes en train de reprendre en cœur son tube « J'oublie tout ». C'était très beau, sauf que ce sont les mêmes personnes qui, quand Marseille n'était pas à la mode, voyaient les Marseillais comme des pestiférés. Ouais. Et moi, ça, je n'ai pas oublié. Alors, j'aimerais te dédicacer ce morceau à toi, Parisien fraîchement amoureux de Marseille, en souvenir de ton concert de Jules. Je tape des grosses barres, je m'étouffe quand je te vois à Andoum en claquette chaussette Jacquemus, alors que t'as jamais pris le bus. Tu chantes Zumba Café, tu suis le Shinjoul, c'est gênant. Je suis dans ma crique calée, j'entends des métiers de tarpin fada. Tu crois que j'ai oublié quand tu pensais que j'élevais des rats, que j'allais te braquer à la calache et que mon père tenait la mafia, alors que pas du tout, c'est mon oncle. Mais ça, parce qu'on s'en beaucoup. Avant le Covid, je disais Saint-Charles, t'avais peur. Tu sortais pas du marais, à part avec un taser. Puis l'été 2020, c'était mort pour Saint-Aurin. T'es venu t'attenter Marseille, paradis à 3 heures de train. Avant, tu nous snobais, je sais même pas pourquoi. Maintenant, tu viens nous squatter, mais t'inquiète pas. Moi j'oublie pas tout quand ça critiquait chez nous. Moi j'oublie pas tout. Et si je te croise à Andoum, prends ton matcha et bouge-toi et tes bonnes adresses foot. Il a bien changé ton discours. Derrière la bonne mère, toi tu cours. Moi j'oublie pas tout quand ça critiquait chez nous. Moi j'oublie pas tout. Et si je te croise à Andoum, prends ton matcha et bouge-toi et tes bonnes adresses foot. Il a bien changé ton discours. Derrière la bonne mère, toi tu cours. Moi j'oublie pas tout. Moi j'oublie pas tout quand ça critiquait chez nous. Moi j'oublie pas tout. Et si je te croise à Andoum, prends ton matcha et bouge toi et tes bonnes adresses foot. Il a bien changé ton discours. Derrière la bonne mère, toi du coup. Merci à vous.
Bravo Camille, tous les talents.
Je déteste.
Accompagné parole de l'inf.
Elle n'est pas sur scène, c'est une honte.
Moi, j'oublie pas tout. C'est cette nouvelle version Jules. Signée Camille. Bien joué. La musique est très présente d'ailleurs aussi dans le livre de Jean-Christophe Ruffin, revenant d'Albanie. Il y a du Miles Davis, il y a du Mozart. Il y a du Piaf.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Du Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas le sel, ce n'est pas le bois de Vincennes.
Mais il aime bien la variété aussi.
Ne laisse les mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds.
Il y a une vraie bande-son du livre, on est d'accord?
Parce qu'Aurel, il est capable de jouer n'importe quoi.
Oui.
Enfin, jusqu'à 11h du soir, parce qu'après, il a
après,
trop...
Après, il est trop souffle.
Il faut le coucher. Mais il a ce répertoire. Moi, j'admire ça, d'ailleurs, chez les pianistes. Oui. Si j'avais joué du piano, Dieu ne plaise, mais c'est ça que j'aurais aimé faire.
Être capable de faire du Mozart ou de la variété, c'est ça
Non, mais c'est formidable qu'ils sont capables de tout jouer. Et lui, on lui donne... il fait des impros aussi.
Il y a des moments un peu... On abuse de sa gentillesse. Lors d'un dîner, on le met au piano et finalement, il va faire le piano-bar, en fait.
C'est ça, oui.
Et c'est le meilleur endroit pour lui, finalement.
Oui, c'est le côté plus bar, oui.
Nous allons reparler de l'Albanie avec Stéphane Zeremeta, qui est directeur éditorial du Petit Futé. Est-ce que l'Albanie est une nouvelle destination à la mode ou pas pour les touristes? La musique, justement, dans votre vie, on commence avec Brassens dans les années 60.
Garogori, tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Garogorie.
Vous avez grandi en écoutant ça. Vos parents vous laissaient écouter
les
obscénités de Georges Brassens.
Oui, à l'époque c'était effectivement considéré comme...
Ah ouais, c'est choquant.
Oui, ça n'a pas choqué longtemps non plus.
Bah, un curé qui se fait violer par un gorille quand même.
Oui.
On
s'est mis sur
la pièce.
Petit à petit, on s'est habitué.
Oui, c'est vrai. Oui. Dit comme ça, comme une information. Bonjour. Aujourd'hui, un curé s'est fait violer par un gorille.
C'était bien déconstruit.
On est en 62, Jean-Christophe, et on vous retrouve à Paris avec votre mère, que vous décrivez comme une femme très libre, qui a payé cher aussi son envie de liberté.
Oui, parce qu'elle a, elle a défoncé un certain nombre de portes pour pouvoir entrer dans le monde du travail. Elle est arrivée de province sans avoir de compétences, rien du tout. Et c'est vrai que c'est l'époque où elle avait pour modèle François Sagan. C'est son rêve, c'est d'avoir une
voiture.
Une Alfa Romeo décapotable. Mais ça a été très dur, On peut dire qu'elle l'a payé de sa vie, d'une certaine façon, parce que tout était difficile. Il n'y avait pas de distributeur de billets dans les rues. Mmh. Quand vous vouliez
du liquide.
Oui, il fallait aller voir l'épicier. On ne se rend pas compte, les femmes travaillaient. Une femme comme elle, elle travaillait. Donc, elles n'étaient pas.
Quand elles avaient un compte en banque.
Elle a eu un des premiers comptes femmes. Dans une grande banque.
Un compte femme.
Il fallait l'autorisation du mari
pour avoir un compte. C'est ça. Et elle, Donc, c'est une génération très dure, qui a vraiment vécu.
Et il n'y a pas si longtemps, c'est ça qui est dingue.
Non, c'est pas si ancien. Ouais. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai été élevé par elle, à partir de l'âge de 10 ans, parce qu'avant, elle n'avait pas assez de place pour me prendre avec elle à Paris. Et j'ai suivi tout ça. Je sais de quel prix elle a payé.
1975, vous écoutiez.
On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement, plus d'un million d'années.
Nino Ferrer, Nino Ferrari de son véritable nom, et Jean-Christophe Ruffin faisait quoi à ce moment-là ? D'abord, pardon, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette chanson ?
Cette époque, puis le début d'une forme de loisir aussi auquel j'avais pas vraiment accès avant, ça a été... possibilité de partir en voyage, de découvrir aussi ce sud qui au début était un peu d'ailleurs limité aux côtes de la France, mais qui ensuite est allé beaucoup plus loin.
Et vous êtes reçu au concours d'internat en 75 à Paris. Votre père était vétérinaire, votre grand-père médecin généraliste. Vous faites le choix de la neurologie comme spécialité. Pourquoi cette spécialité-là ?
C'était pour me rapprocher un petit peu de l'intellect, vous voyez. Mm-hmm. C'est-à-dire la proctologie, c'est l'autre bout.
Oui.
Et moi, je voulais un peu...
Élever le débat.
Vous dites que les héritiers vous sont passés devant, quand vous parlez de votre cursus.
J'avais aucune chance de devenir... J'avais tous les titres pour le faire.
Pour être professeur en médecine.
Pour être professeur de médecine, mais tous les ceux de ma génération qui ont été professeurs, c'est qu'ils avaient un père,
un nom de famille,
un nom de famille qui allait bien. Il fallait deux choses. Il y avait très très peu de place parce que après mai 68, il y a eu la réforme Debré, des gens très jeunes ont été nommés et moi j'avais vraiment aucun avenir dans le système. Donc je suis allé voir ailleurs.
Mmh.
1986, Jean-Christophe Ruffin, vous écoutiez.
Donc la proctologie,
ça amène à la politique.
Un clin d'œil à Mathieu Madénian que j'embrasse au passage sur le Kissa. Les démons de minuit, que viennent-ils faire ces démons de minuit dans votre...
Et pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas.
Je vous vois pas, vous comme ça, calme. Sur une piste endiabée avec une boule à facettes.
Non, mais je plafond. Ouais, quand même, méfiez-vous.
Moi, je ne vendrais pas le truc comme ça. 86, c'est la politique qui vous appelle, qui vous attire, Jean-Christophe Ruffin, auprès de quelqu'un dont on a parlé récemment dans l'actualité, c'est Claude Malhuret, qui avait un peu disparu des radars, on va dire, pour le grand public, mais par son discours contre l'administration Trump a fait surface.
Oui, il est revenu, c'est très curieux, parce qu'on s'est un peu perdu de vue. Claude Mallory, il avait été président de Médecins Sans Frontières. C'est comme ça qu'on se connaissait, on avait travaillé ensemble. Puis il est devenu secrétaire d'État aux droits de l'homme, mais en même temps, il y avait Charles Pasqua dans, la même, dans le même gouvernement, donc c'est un peu compliqué. Et, voilà. Et donc, on a passé, moi j'ai passé 2 ans auprès de lui, dans son cabinet, etc. Mais on, je me souviens, il y avait un grand cerisier du Japon dans la cour, et on passait des heures à regarder ce cerisier fleurir, là, au printemps, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et c'était terrible, parce qu'il avait à la fois un titre, mais en même temps, pas de moyens.
Oui.
Voilà, donc c'était passionnant, mais ça m'a... Voilà, c'était plus un poste d'observation que d'action.
Et vous l'avez recontacté quand il a fait ce discours où il avait comparé de mémoire Elon Musk à une sorte de milliardaire sous substance, un mégalo complètement fou.
Oui. Non, je sais pas. C'est vrai qu'il se déchaîne là et je trouve ça très bien pour lui d'ailleurs.
Il est extrêmement brillant. Et ses discours
mais ça a toujours été quelqu'un de brillant.
Ah oui.
Simplement, c'est drôle. Il est devenu maire de Vichy à ce moment-là. Moi, j'ai pas fait de politique au sens, j'ai jamais été élu. Mais lui, il est devenu maire de Vichy. Alors, c'est une très belle ville, mais si vous voulez, maire de Vichy, vous voyez, je sais pas. Enfin, ça n'a pas forcément, ça l'a un peu
cantonné
à quelque chose.
Dans les territoires.
Voilà, de très local, voilà. Et finalement, il y a que maintenant qu'il est sénateur.
Il est sénateur.
Qui prend un peu son.
Il est médecin aussi, hein.
Ah, il est médecin, bien sûr. Je dis, il était président de Médecins Sans Frontières.
Je savais pas qu'il fallait être médecin pour être président de Médecins Sans Frontières.
Non, vous avez raison. D'ailleurs, en fait, on peut aussi être infirmier. Mais bon,
touche au médical.
Mais à l'époque c'était le cas parce que c'était une association de médecins. Voilà.
Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il
tient
comme discours
Non, parce que je trouve qu'il a des positions sur la situation française assez. Voilà, je trouve un petit peu caricatural. Voilà.
Très bien. En 99, Jean-Christophe Ruffin, vous écoutiez. Goran Bregovic, c'est plutôt pour la bande originale du film, Le Temps des Gitans,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, bah les deux, le film aussi est formidable, mais je sais pas.
Sans la musique, c'est pas le même film, c'est sûr.
Pas le même film. Et en plus, ça a correspondu avec la guerre en Bosnie. Ouais. Je suis beaucoup allé dans les Balkans, et là, il y a quelque chose de très, voilà, de très puissant dans cette.
C'est même très émouvant. Enfin, toutes les musiques de l'Est, elles font appel. Il y a des vibrations. Ouais, ouais.
Et l'Albanie, d'ailleurs, puisqu'on en
parlait. Qui tire les larmes.
L'Albanie fait, à des côtés, notamment le Nord, très balkanique. Hein, ça reste un peu cet univers-là, quand même.
Et on vous retrouve en poste au Kosovo à cette époque-là.
Pas en poste, mais en mission. Oui,
en mission. Dit,
oui.
Qu'est-ce que vous avez vu de plus notable là-bas, dans le sens positif comme négatif?
Moi, j'ai un souvenir, c'était le pont de Mitrovica entre la zone serbe, la zone albanaise. Ce pont était la frontière et nous, on passait dessus. C'est-à-dire, les humanitaires pouvaient traverser, mais personne d'autre ne pouvait traverser. Il y avait des gens en armes de chaque côté. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, finalement, on était devenus des zombies, des fantômes. Au fond, le choix de l'engagement humanitaire, c'est à la fois un engagement, puis c'est un non-engagement. C'est le fait de n'être d'aucun côté. Et pour moi, c'est resté une impression très, très forte, très troublante.
Et troublante, désagréable, vous dire ?
Un peu, parce que finalement.
Mais est-ce que ça fait de vous un militant pour autant après ?
Non, mais justement, parce que ma génération, finalement, c'est un peu celle qui a pris toutes les idéologies un peu sur la figure et qui s'est réveillée avec une espèce de gueule de bois idéologique, on pourrait dire, puisqu'on est arrivé après la chute du communisme. Un 20e siècle avait été ravagé par les idéologies de tous les côtés. Et donc, finalement, on s'est engagé vers le non-engagement. Engagement, quoi. C'est-à-dire, ce qui est très louable, hein, c'est l'engagement pour l'humanité, pour
Parce
l'humain.
C'est pas le propre de la diplomatie d'être un peu entre deux.
Oui, mais j'avais écrit un livre qui s'appelait Checkpoint, qui était une histoire comme ça où des humanitaires qui étaient justement en Bosnie, dans deux convois, finissaient par se rendre compte que ce non-engagement à un moment donné devient un problème.
Ouais.
Et moi, quand je pense à mon grand-père, par exemple, qui a été déporté parce qu'il était dans une résistance, qui était à Buchenwald, apporter des couvertures à Buchenwald, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment où même l'engagement est nécessaire.
Je me demande si vous n'étiez pas venu dans l'émission pour Checkpoint, justement.
C'est probable.
Il me semble.
C'est probable, oui. Ouais.
En 2007-2008, vous écoutiez Youssou N'Dour. Musicien et homme politique.
Oui.
Également. Et j'imagine que c'est votre passage au Sénégal qui vous a fait rencontrer voilà, Youssou.
Bien sûr, et ami, parce que j'aime beaucoup Youssou, qui est voilà, un pilier à la fois de. C'est un ambassadeur de ce pays.
Alors, il était ministre de la Culture, hein, quand je dis qu'il était homme politique, il était.
Oui, mais.
Il ne s'est pas présenté aux élections.
Non, parce qu'il est toujours quand même pris soin de garder une forme de neutralité pour sa carrière. Hein, mais, okay. Voilà.
Vous êtes nommé donc au Sénégal et en Gambie d'ailleurs, ambassadeur de France, à un moment où la France a envie aussi de rompre avec la France-Afrique.
Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont allés me chercher.
Il faut des hommes neufs, des hommes qui sont pas. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas nécessairement encartés ou qui, avec eux, ne véhiculent pas tout un passé petit peu lourd et difficile à promener, à un poste quand même sensible.
Oui, c'est un gros poste, c'est notre plus grande ambassade en Afrique, puis c'est une des plus grandes dans le monde d'ailleurs. Oui, c'est très sensible et c'est très, comment dirais-je, très politique. On est soumis aussi, je suis arrivé juste après le fameux discours de Dakar, si vous voulez. Oui. Donc j'étais là pour théoriquement rompre avec la France-Afrique et puis j'avais à gérer une crise majeure qui était celle de ce discours pour le moins maladroit, si vous voulez. Voilà. Alors c'est
Sarkozy.
Oui. tous les mercredis, je regardais le Conseil des ministres, voir si j'avais été viré. Quoi. Oui. C'est un poste, c'est un siège éjectable incroyable.
Partons et continuons de voyager vers l'Albanie, le revenant d'Albanie, signé Jean-Christophe Ruffin, le nouveau tome des aventures d'Aurel le Consul chez Calman Lévy. Avec vous, Stéphane Zeremeta, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes directeur éditorial du Petit Futé, donc qui dit voyage, tourisme et rencontre et compréhension d'un pays. On évoque
le rencontre.
Voilà, invitation à partir, à aller le découvrir. C'est vrai.
Vous êtes déjà allé en Albanie?
Oui, du coup, c'est vraiment une expérience superbe parce que c'est un tourisme qui est vraiment authentique. Alors, le pays, c'est vrai, il a été fermé longtemps. Il y a un engouement quand même depuis 2000. Ça se réouvre. En 2023, ils ont 10 millions de visiteurs, donc c'est un tout petit pays. C'est quand même assez énorme l'engouement qu'il y a pour l'Albanie. Alors moi, je dirais, voilà, c'est un petit côté rustique, pas développé, pas tourisme de masse. C'est le moment d'y aller pendant que c'est encore tout frais. En fait.
On va le situer. On est au-dessus de la Grèce et de l'autre côté du talon de l'Italie.
Absolument. En face, la Pouille Calabre, voilà. Donc il y a cette influence italienne. En dessous, au sud, donc il y a la Grèce, Corfou et pas loin.
Au nord,
la Macédoine, donc ça c'est le Monténégro, pardon, la Macédoine du Nord sur le côté droit. Donc c'est quand même un environnement assez sympathique, ça en fait un atout. Et c'est un pays qui a une très très grande variété. Donc on va avoir toute la côte albanaise qui est superbe. On a aussi le côté montagne, hein, ça ressemble un peu aux montagnes autrichiennes. Et c'est vrai que le fait que c'est été fermé, ça laisse tout un patrimoine qui est aussi intéressant à découvrir.
Est-ce qu'on peut y voyager seul? En tant que femme, facilement.
En toute sécurité.
Avec des enfants.
Alors, en toute sécurité. Ils ne conduisent pas super bien.
Ah. Elle ne pensait pas la même sécurité.
Elle
ne voulait pas traverser la rue. Elle voulait juste savoir si elle peut y aller tranquille en tant que femme.
Alors, c'est un tourisme beaucoup moins formaté. Parfois, on va se retrouver avec plus d'imprévus. Il est probable que c'est un tout petit peu moins organisé. Mais quand même, ça progresse énormément. Mais c'est aussi ça, un peu, ce qui est intéressant quand on est voyageur. C'est pouvoir avoir cette approche. Être un peu en défricheur.
Et il y a toutes les cultures sont présentes, sont ressenties dans l'architecture, les traces des colonies grecques, les traces de.
Alors on a visité une ville. Alors j'ai noté Burinth, c'est vraiment une cité gréco-romaine. Vraiment,
Burinth.
Burinth. Là quoi, on a un théâtre, un amphithéâtre à la grecque.
Ah bah c'est juste en face de Corfou, c'est presque à la frontière grecque, et ce sont des ruines qui ont été excavées par les Italiens d'ailleurs, et c'est magnifique.
Les mosaïques. Également.
Des mosaïques. Il y a un musée qui regroupe les statues, etc. Il y a deux sites. Il y a Apollonia qui est plus au nord, la Apollonia ruine romaine, et puis Boutrine. C'est vraiment très chouette.
Parlons de gastronomie.
Ah oui, j'allais dire,
est-ce qu'on a l'influence italienne, grecque,
italienne, l'influence turque, c'est assez, c'est vraiment
délicieux.
Génial. Génial.
Okay. Donc oui, ça se fait particulièrement des grands atouts de la destination.
Okay, continuons. Climat, plage, station balnéaire.
Les plages, elles sont très bien. Bon, d'atouts, on a la mer Adriatique sur le côté nord, on a la mer Ionienne sur le côté droit. Alors, pas mal de falaises, des plages de sable blanc, tranquille, mais aussi pas mal de plages de galets. Il y a quand même des...
Comme en Italie, il y a plus de galets.
Voilà, ça alterne un tout petit peu. Ouais. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a plein de petites criques cachées. C'est vraiment très authentiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Voilà, c'est pas vraiment bétonné comme on peut avoir sur d'autres parties du littoral dans cette région.
Alors, continuons, Stéphane. Est-ce que.
Mais un Starbucks
Non, est-ce que est-ce que les tarifs, quel enchaînement d'ailleurs, entre le prix du café au Starbucks et la réalité du café.
Pas vraiment du café, non.
Est-ce que oui, en plus, est-ce que les tarifs sont abordables? Est-ce que c'est intéressant de prendre des vacances en Albanie?
C'est super pas cher. Hein. C'est vraiment quelque chose. Je crois que c'est 30% de moins que la Grèce, facilement bien moins cher.
Qui est déjà pas la destination.
Oui, par exemple, pour 12 euros, vous allez manger dans un bon resto, les hôtels, ce sera pas très cher, 30, 50, 60. Allez, vous allez dans un boutique hôtel, vous pouvez en trouver à 80 euros. Donc, c'est vraiment une destination pas très chère. Ce qui fait que ça en fait une destination assez idéale, parce que c'est vrai que, bon, si on se dit qu'on peut faire abstraction des petits. Le côté non aussi bien organisé. Par exemple, c'est que les transports, c'est pas forcément aussi précis, ça n'arrive pas à la minute près, les routes sont pas toujours extraordinaires, mais l'État fait beaucoup de
contrairement à la SNCF en France, qui a...
L'État investit
massivement, vraiment.
Et la meilleure période pour y aller, il fait très chaud l'été.
Il va faire très chaud l'été, là on est en avant-saison, c'est plutôt sympathique, en arrière-saison, c'est plutôt bien. Puis après, c'est vrai que l'Albanie, ça commence à savoir que c'est pas très cher, vraiment très sympa, c'est une alternative aux zones saturées où il y a un peu de touristes de masse dans les proximités, donc ça commence à y aller.
Mais en parler, là, ça va pas rendre le pays invivable ici.
C'est la question, est-ce que le tourisme de masse est en danger? Vous en pensez quoi?
Moi j'y étais la semaine dernière encore, je suis rentré il y a deux jours. Et il y avait personne. Alors ça reste un pays, bien sûr, qui est en croissance du point de vue touristique, mais enfin qui est loin d'être saturé. Puis je voudrais faire une petite remarque.
La semaine dernière, j'étais dans le Var, il n'y avait pas grand monde non plus.
Une petite remarque sur la cohabitation des religions, parce que ça, c'est un truc assez exceptionnel en Albanie, du fait probablement que les religions étaient interdites toutes dans les années 60, mais il y a une sorte de cohabitation incroyable. Vous avez une mosquée, une église catholique, une église orthodoxe, tout ça côte à côte et sans aucune tension. Et pour la question de Léla sur la
sécurité,
les gens pensent beaucoup mafia albanaise, etc. Mais mafia albanaise, elles sont en Europe, c'est-à-dire c'est des groupes mafieux qui vont opérer ailleurs, mais dans le pays pas du tout. Et c'est un pays qui est vraiment très sûr de ce point de vue-là.
Est-ce que c'est justement une destination maintenant privilégiée pour des retraités italiens ou grecs en se disant
C'est vrai qu'il y a une forte proximité avec l'Italie, même culturellement, il y a une grande proximité. Je crois qu'ils ont des avantages fiscaux aussi pour les Italiens. Donc autant vous dire, il fait beau tout le temps, c'est pas très cher.
Tu payes pas d'impôts,
donc c'est plutôt avantageux.
Tu peux tuer ton voisin parce que ça fait partie de
la tradition. Je le fais bien. Et de face.
Il est brouillon, Nagui. Il m'énerve quand
c'est ça. C'est ça. Il y a évidemment des guides du petit futé spécial.
Comment tuer
Albanie. Et il y a toujours le petitfuté.com, évidemment, pour le site internet. Et le carnet de voyage petit futé également, qui le guide qui va à l'essentiel et qui existe aussi en format numérique.
Ils sont très bien faits, d'ailleurs. C'est des très.
Ah ouais, c'est estampillé.
Par contre, du tourisme de mémoire qui est aussi très présent, parce qu'il y a plein de bunkers qui sont présents de la période où le pays a été fermé. Super. Et ils ont transformé certains, notamment le bunker du président, en centre artistique. Alors, c'est musée et centre d'art contemporain. Ouais. Donc, c'est quand même une belle transformation.
Berlin a pu le faire avec son mur aussi. Les artistes ont pris possession.
Et finalement, on a tous cet univers de la guerre post-soviétique qui est là, mais teinté de Méditerranée. C'est quand même assez unique en Europe.
Ça donne envie, en tout cas. Merci, Stéphane Zeremeta d'être venu parler. Le petit futé, il porte très très bien son nom. Voici venir Julie Conti.
Ah oui. Coucou tout le monde.
Hello.
Vous avez une survivante devant vous.
Qu'est-ce que c'est?
Comme disait les Destiny Child, I'm a survivor. Et oui, j'ai survécu au grand blackout de la péninsule ibérique. El gran apagón, comme on dit en Espagne. Je l'ai vécu depuis Séville avec mes gosses et mon copain. Bon, survivre, j'exagère. Hein. On a passé la majorité de la journée au bord de la piscine. Tu vois, genre, les survivalistes, ils dépensent des fortunes pour des bunkers et des réserves de conserve. C'est une connerie. Allez, une pistoche et un rooftop et quelques cocktails. Et la fin du monde est tout de suite beaucoup plus sympa, quoi, faut le dire. Du coup, pendant 12 heures, plus de courant, donc pas de transport public, pas de feu de signalisation, pas d'eau courante, pas de distributeur de billets. Et pire que tout, quoi? Les personnes coincées dans les ascenseurs pendant des heures? Non, pire. Quoi? Les hôpitaux dans le noir? Encore pire que ça?
Pas
d'internet. Oh, oh mon Dieu, mais quelle panique, quelle panique. Non mais je suis censée faire quoi sans wifi de midi et demi à 1h30 du matin? Genre discuter avec mon mec? À 22h, on avait épuisé les sujets de conversation, du coup on a été obligé de faire l'amour, hein. Ah bah ouais. Faut bien trouver à s'occuper, qu'est-ce que je te dise? Ça faisait un moment, hein, je peux te dire. Et à quel âge déjà ma cadette? Ouais, bon, ça dure, hein. Et voilà, voilà le secret pour relancer le désir après 18 ans de relation. Une panne de réseau. Je viens de foutre au chômage tous les conseillers conjugaux, là, tiens. Dans la hiérarchie des espèces, on met l'humain au sommet. Mais après avoir passé une journée sans électricité et sans internet, je peux vous dire que si on reste en haut, c'est pas mérité. Non, parce que sans Google et consorts dans la chaîne alimentaire, nous on est entre l'acarien et le cochon d'Inde en vrai. Hein. Et ces 12 heures sans électricité m'ont appris quelque chose sur moi. J'ai un très mauvais instinct de survie. Hein. Julie, no buena survivalista. Hein, non, non. Au début de la coupure, ma première réflexion, ça a été, bah, dis donc, on n'irait pas se boire des petites bières? Et franchement, l'ambiance était dingos. Les terrasses étaient blindées. Il y avait des mecs qui jouaient de la guitare. Moi, je vous préviens, hein, la fin du monde, je veux la vivre en Espagne. Hein. Ah ouais, non, mais l'Armageddon, ça me fait pas peur, avec de la sangria à la main et Julio Iglesias dans les oreilles. Et les discussions sur les terrasses tournaient tout autour de la raison de cette panne. Ça penchait pas mal sur un coup des hackers russes, ou comme ils le disent là-bas, los hackers russos. Los hackers russos. Oh non, en espagnol, ça sonne inoffensif. On dirait le prénom moins connu du frère caché de Demis Roussos.
Oui.
El hacker russos. Bon, son album n'a pas marché, alors il s'est recyclé. On ne sait toujours pas d'où vient cette panne. Et moi, je trouve qu'ils ont bon dos, les hackers russes, en ce moment. Dès qu'il y a une merde, on dit que c'est de leur faute. Hein. C'est comme Anne Hidalgo pour Nagui, ou alors l'immigration incontrôlée pour les politiciens populistes. Bah, ma théorie à moi, c'est que c'est un sabotage des cochons d'Inde. Pour pouvoir prendre le pouvoir, tu vois, des milliers de petits cochons d'Inde, hein, tout petits, genre carottes, grisou et pistache en train de grignoter les câbles en même temps. Hasta la révolution ! Oui, oui, bon. Et après une heure à picoler en terrasse, mes gosses m'ont quand même dit « Maman, on a faim ». Et là, je réalise deux choses. Ah oui, c'est vrai, j'ai des gosses et mince, on peut pas payer avec la carte. Et je viens de dépenser les 12 derniers euros que j'avais en cash en servait ça. Oh là là, ça devient compliqué. Mais du coup, j'ai un conseil pour se nourrir sans dépenser d'argent en cas de blackout. Ayez des enfants beaux. Ah bah oui, non, ça aide. Avec leur petite bouille, là, je leur ai appris à quémander en espagnol. Por favor, para la comida, soy francés. Oui, je leur faisais dire qu'ils étaient français, parce que si j'avais dit qu'on était suisse, ça faisait moins pitié, on n'aurait rien eu. Et ça a marché, direct, un mec leur a filé des Twix triangles, des chips, des bonbons et du Fanta. Alors, je sais pas si vous voulez les nourrir ou leur filer un diabète de type 2. Mais vous rendez compte, hein, mes enfants ont dû mendier car maman avait picolé tout l'argent du ménage. On dirait qu'on est dans un roman de Zola relooké par des pentes, là. Ouais. Et comme pendant le Covid, eh ben, dans les supermarchés à côté de mon hôtel, les stocks de papier de toilette ont été dévalisés. Mais oh, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Personne n'est mort d'avoir le cul sale, en vrai. Enfin, je veux dire, et s'il n'y a plus de PQ, il y a des alternatives. Regarde, sans d'ailleurs, Camille, t'as vu? Il n'y a déjà plus d'odeur, ça part très vite, c'est très bien. En revanche, comble du luxe, moi j'avais une batterie externe chargée à bloc. Oh là 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 là, moi je me la pétais là tellement, je rechargeais mon téléphone exprès en public et tout le monde me matait. J'avais l'impression d'être une meuf bonne en soirée reggaeton. Ouais, il y a tout le monde qui avait envie de me brancher là. Et tous les électrodépendants venaient vers moi comme des petits junkies. Allez, s'il te plaît, vas-y, lâche-moi une petite barre de batterie. Pourtant, ça servait à rien, il n'y avait même plus internet. Et à 1h20 du matin, retour du courant. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on pourrait aller fêter ça en terrasse en buvant une bière pour changer. Mais bon, finalement, on est resté à l'hôtel parce qu'on n'avait plus besoin de se parler. On pouvait de nouveau scroller. Et voilà, viva la electricidad.
Merci. Conti est dans la prochaine demi-heure. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler?
Je parle d'un scandale à Chartres, la bonne ville de Chartres.
Jean-Christophe Ruffin, notre invité, jusqu'à midi et demi. La bande originale avec Lisa Del Moitié, Camille Lavard, Julie Conti.
Bonjour tout le monde.
Tanguy Passureau, Al Delage.
Bon appétit.
Daniel Morin. Et notre invité Jean-Christophe Ruffin.
France Inter, la bande originale, Lila Cadour et Nagui.
T'as des potes qui t'ont dit on sera à table à ce moment-là?
Exactement.
C'est un défi.
Ah, c'est ça, ouais. Non, il a faim, c'est tout.
Ouais. Jean-Christophe Ruffin, ce revenant d'Albanie, ce plaisir que vous avez, ce qui vous motive, c'est de raconter une histoire policière, d'avoir une intrigue, un fil rouge, de voyager, de nous faire rencontrer des traditions. Ce sont ces éléments-là, ces ingrédients, finalement, si je sais bien qu'il n'y a pas une recette, Aurel le Consul, mais c'est ce qu'on retrouve régulièrement dans vos romans, en tout cas.
Ah oui, parce que
j'aime, c'est raconter des histoires. Je ne sais pas si je suis un écrivain, mais je suis un, ce que les Américains appellent un storyteller, quoi. C'est ça l'idée, c'est d'écrire les livres qu'on a envie de lire et qu'on aurait envie qu'on vous raconte.
Voilà. Oui, mais avec cet équilibre que vous donnez dans la contemplation comme dans l'action.
Ben, j'ai essayé d'être fidèle à des grands maîtres auxquels je fais référence d'ailleurs bientôt sur votre antenne, notamment Alexandre Dumas.
Absolument, puisque c'est une série qui sera diffusée tout l'été, hein, c'est ça, dans la matinale sur Inter. Ça commencera à partir du 7 mai d'ailleurs, ça sera en livre à partir du 7 mai aux éditions des Équateurs, voilà. Et puis tout l'été
c'est une
à
tradition
l'antenne.
De l'été sur Inter, et un été un auteur et un grand spécialiste de l'auteur.
Un été avec Alexandre Dumas, et c'est vrai que ça a été un plaisir fou de le faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Dumas, il a commencé par le théâtre, et c'est ce qui lui a donné cette puissance dans les dialogues. Après, il a fait ses voyages, et c'est ça qui lui donne les descriptions, finalement. Et quand vous mélangez les deux, vous avez ses romans, qu'il a écrit tard, d'ailleurs. Un premier roman, il a écrit à plus de 40 ans. Et Monte Cristo, enfin, les grands romans connus, les plus connus, Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, c'est 3 ans de sa vie, c'est tout. C'est-à-dire que, et pendant ces 3 ans, ils, avec Maquet, ils ont publié une quantité de chefs-d'œuvre, La Reine Margot, etc. Et moi, je trouve que, vous voyez, parfois on dit c'est 19e-iste, etc., se considérer un peu comme une critique. Et pour moi, c'est un honneur, c'est-à-dire que d'être dans la filiation de ces maîtres, de ces gens qui ont découvert une forme très puissante qui est ce roman finalement à épisode, hein, parce que et l'idée, vous voyez, vous parliez de la policier ou pas policier, moi ça m'est égal finalement, policier ou feuilleton, c'est un peu le même processus, c'est faire en sorte que à la fin du chapitre les lecteurs aient envie de tourner les pages, c'est ça. Alors vous utilisez une intrigue policière,
il y a une intrigue, voilà, c'est ça. Une enquête, voilà. Avec des rebondissements, avec des dangers réels, mais tout ça étayé par une sorte d'enquête que vous avez vous-même réalisée. Alors vous parliez du temps d'écrire un roman, combien de temps vous avez...
Moi j'écris toujours très très vite.
Vous dites que vous n'écrivez que à 1 à 2 mois dans l'année.
Oui, il me faut quelques jours en fait pour écrire, parce que au début...
Mais pardon, il y a toute la partie enquête et observation avant, non ?
Oui, mais vous savez, moi quand j'ai commencé à écrire, je travaillais comme médecin dans les hôpitaux, j'avais très peu de temps, donc je sais que je me disais, bah, tiens, bah, t'as 15 jours, voilà, faut que tu y ailles, et puis je m'y mettais, et j'écrivais le livre. Et finalement, ce qui était au début une contrainte est devenu un plaisir. Et maintenant, je garde cette forme, c'est-à-dire pour aller le plus vite possible, j'écris pratiquement à la vitesse où les lecteurs lisent, et c'est ça qui donne cette espèce d'état de grâce, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose.
Il faut une qualité littéraire 40, derrière. Ouais.
40-50 pages.
Non, mais vous, vous lisez trop vite. Vous lisez trop vite.
Je
peux pas suivre.
Non, mais... c'est que plus on lit, plus on lit vite. C'est bien sûr. Ça aussi.
Ça veut dire que vous ne revenez pas beaucoup sur vos textes ?
Pas du tout, non, je reviens pas du tout.
Eh ben, on aimerait en parler, justement. Si vous pouviez vous relire, Jean-Christophe.
Et vous êtes plutôt un oiseau de nuit ou de jour ?
Ah ben, quand on fait des rythmes pareils, il faut toute la journée, hein, toute la journée. Et même, voilà.
Donc on ne vous voit pas pendant un mois, quoi.
Voilà, c'est que je m'immerge complètement.
Apparemment, sa famille est au courant.
Ben, tout le monde est au courant, mais si jamais je devais m'arrêter, c'est-à-dire, par exemple, j'ai quelque chose à faire, une semaine de je sais pas quoi, où je dois m'arrêter, c'est un calvaire. Ah oui. Parce qu'il faut tout remettre en route, etc. C'est un calvaire. Quand vous avez beaucoup de personnages dans la tête, des lieux, des trucs et une action, il faut rester comme ça. Oui.
Alors l'action, on l'a. Dès le début, on sait qui a été tué. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais le personnage est abattu de sang-froid par un motard qui a retiré son casque, donc qui n'avait pas peur de...
Il voulait qu'on le reconnaisse.
Qui voulait qu'on le reconnaisse, qui n'avait même pas peur des caméras de sécurité ou autres autour de lui, avec un flegme, un sang-froid qui fait justement froid dans le dos, mais qui est une règle, et on comprend que ce règlement de compte est installé de génération en génération.
Une tradition,
il y a les règlements de compte avec le sang, avec l'argent aussi d'un autre côté, avec le lait, vous le disiez, trouver des endroits où on ne peut pas être abattu parce qu'il y a trop de bruit et qu'il faut entendre et pourquoi on est pourquoi on est tué. Souviens-toi de un tel ou un tel. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi on paye finalement de sa vie une erreur qui a été commise, pas forcément par soi, mais peut-être aussi par sa famille, ses descendants.
Généralement, oui. Mais c'est pour ça que moi, j'accepte tout à fait le thème, qu'on dise que c'est des romans policiers, mais c'est pas du tout des romans noirs que je fais, parce que si vous voulez, cette dimension de crime, etc., c'est plus la mécanique de l'enquête, mais en fait, c'est le prétexte aussi à découvrir des choses beaucoup plus lumineuses, que ce soit les personnages, les lieux,
la mécanique de l'enquête et du raisonnement aussi.
Voilà. Mais c'est pas du tout des livres noirs, parce que j'étais récemment à Lyon, là, pour les Quais du Polar, avec effectivement des grands écrivains de polar autour de moi, qui, pour la plupart, font du noir. C'est-à-dire que c'est très sombre, il y a une sorte d'humanité très noire. Tandis que moi, pas du tout. Je veux dire, j'ai toujours aimé des livres un peu ensoleillés, découvrir des pays. Et finalement, même le soleil, finalement, permet de découvrir des mystères. C'est-à-dire que le mystère, c'est pas forcément l'obscurité. Ça peut être parfois étalé en plein jour, ce qui est le cas de l'Albanie, par exemple.
Et c'est réussi. Le Revenant d'Albanie, le nouvel épisode des aventures d'Aurel, le consul.
Le nouvel Aurel.
Chez Calman Lévy. Ouais. Noir, signé Jean-Christophe Ruffin. Voici Tanguy,
Passion. Ah oui.
Bravo. Le nouveau Tanguy.
En fait, ici, on a tous une double vie. Nagui, dès que l'émission finit, part tourner des émissions de télé. Leïla attend le bibliobus. Julie Conti retourne en Suisse, pays où c'est elle qui parle le plus fort. Un des experts ont mesuré, ils pensent la déchoir de la nationalité là-bas. Son rire tonitruant, notamment, a été classé en tant qu'acte terroriste par la ville de Genève. Et, tiens, voyez de ce que je veux. Et nous autres, le week-end, nous sommes sur scène et nous devons répondre, pas tant que ça, à la question 1000 fois posée par le public. Il est comment, Nagui? Il est sympa ou pas? Samedi soir, par exemple, je jouais à Chartres, ville géniale, super. Top, parce qu'elle a l'avantage pour nous qui habitons Paris de pouvoir rentrer à la maison le soir. Prends-en de la graine, Dax. Hein, les hôteliers de Chartres non, aucune star à dormir chez eux samedi. Il y en a même un qui a tenté de me débaucher. Il m'a dit, on te fait la suite premium gratos. On a mis 40 bouteilles de veuve Clicquot, des pétales de rose sur le lit, des cigares. À 23h, Cadmerade en personne viendra rentrer son code canal. Bon, j'ai répondu non. Hein. Moi, dès que je peux rentrer chez moi, je le fais. Tiens, d'ailleurs, j'y vais. Enfin, après la chronique. Hein, j'ai trop envie d'exister pour faire que 40 secondes. Et dans mon spectacle, je auto-spoil, hein, je suis pas assez souple pour le reste, mais ça va. À un moment, je dis au public que je me verrais bien président de la République. C'est-à-dire que si Hanouna a pensé y aller à un moment alors qu'il a le champ lexical d'un CP qui a rien branlé de l'année, on peut tous y aller. Non mais attention, attendez, j'ai rien contre la candidature d'Hanouna, j'adore le chaos et l'absurde. Et là, je fais tourner le micro dans le spectacle, je fais tourner le micro pour savoir quels seraient les souhaits des gens, ce que je pourrais faire pour le pays si je devenais président. Ça m'apprend l'impro. Hein, je suis parti de zéro. Au début, quand la personne disait bonsoir, je savais pas trop quoi dire. Mais j'ai progressé. Comme quoi, avec des efforts, on peut tout accomplir. If you want it, you got it. Hein? Non, parce que quand je vois la phobie sociale, par exemple, dont est atteint Bernard Arnault et qui l'empêche de prendre le métro, j'ai envie de lui dire, mec, fais-toi violence. Imagine que tu es dans un jet. Ok, un jet qui sent le pipi, où tu es collé à des gens qui flairent des aisselles, dans lequel il y a des personnes qui poussent des cris, tu sais pas pourquoi. Mais un jet. Il faut se dépasser soi-même, m'a dit un ami à personnalité multiple le jour où il était au volant, persuadé que dans la Peugeot devant lui, c'était lui aussi. Bref, samedi, des spectateurs me disent quels sont leurs souhaits pour la France. Plus juste répartition des richesses, revenus universels, blablabla, public France Inter. Soudain, je tends le micro vers une femme. Je m'appelle Sophie, dit-elle. Et là, Sophie me dit, j'aimerais que les arbres du parvis de la cathédrale de Chartres reviennent et qu'on retire les parasols. Oh. Or, j'avais pas la ref, parce que comme toutes les stars de l'entertainment, j'arrive, je fais le show et je repars. C'est comme ça qu'on construit une légende. Hein, Brad Pitt, il se balade pas dans le centre-ville de Troyes en disant, je me ferais bien une andouillette. C'est justement parce qu'on ne voit jamais Brad Pitt manger d'andouillette qu'il nous fait rêver. Et à Monop, au rayon PQ, il y a rarement Catherine Deneuve. Peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, ils mangent pas d'andouillette. Si ça se trouve, ils ont un transit très lent. Les stars ne vont pas aux toilettes. Ça fait 48 heures que je suis posté devant celle des femmes à France Inter, espérant croiser Sophie Marceau. Rien. 3-4 intermittentes. Et je reviens au spectacle. Quand la dame me parle de retirer les parasols et de remettre des arbres, la salle applaudit. Mais des applaudissements nourris. Les mêmes qui auraient eu, s'il y a 30 ans, un prêtre de chez Bétaram était arrivé à retenir une érection en présence d'un élève. Parce que je vous explique. C'est pas eux, c'est pas moi, c'est eux. Hein. Non, je vous explique quand même. Parce que je vous explique sur le parvis de la cathédrale de Chartres. Bon, il y avait des arbres centenaires, des arbres que Michel Drucker a connus arbrisseaux. Mais la municipalité les a coupés, disant qu'ils étaient malades. Voilà, on nous a fait le même coup à Paris, hein, il reste 4 mauvaises herbes et une ronce, mais comme Hidalgo fait le tour de l'hôtel de ville à vélo, elle passe pour une écolo. Les arbres à Chartres ont été abattus en pleine nuit, signe qu'ils n'étaient pas fiers de faire ça. Ce qu'on fait en pleine une nuit, rarement on le met sur le CV, à part David Guetta, sinon il aurait rien à mettre. Et donc, à la place, la municipalité a collé des parasols géants moches comme un dimanche pluvieux, que personne sur place n'aime. Peut-être que dans ma salle samedi, j'avais que des gauchistes, mais j'en doute. C'était un festival de CSP+, à pull sur les épaules. Chartres, tu sens que tu n'es pas à Rennes ou à Mulhouse. Donc, j'ai eu l'impression samedi d'être un lanceur d'alerte local, le Julian Assange du réseau ici. D'autant qu'il y a quelques mois, avant de jouer à Coutances, j'avais reçu une lettre d'un collectif qui dénonçait l'installation devant le théâtre de conteneurs à poubelles enterrés. Impossible de les virer, hein, ou alors avec une tractopelle. Mais qui a une tractopelle? Ça coûte 20 000 euros. L'histoire retiendra que le tennis, le golf et le bondage se seront démocratisés avant la tractopelle. Sur scène, j'avais parlé de ces conteneurs, toujours mon côté de lanceur d'alerte du terroir, et on m'a dit qu'ensuite ça avait fait mais tout un truc localement. La municipalité cherchait qui m'avait envoyé cette lettre, parce que je ne cite pas mes sources, je suis pur et intègre. Donc à chaque fois que je passe dans une ville, je fais tomber le maire. Ce soir, je suis à Angers, la ville de Christophe Béchu. J'attends les doses. Dans un mois et demi, il démissionne. Il a forcément des casseroles. Tout le monde a des casseroles. Je reviens à Chartres. 300 000 euros, ça a coûté d'installer ces parasols hideux à la place des arbres centenaires. Ouais. Hugo Clément en a même parlé ce matin sur France Inter. C'est l'ami des arbres, Hugo Clément. Il appelle chaque chaîne par son prénom. Il communique avec les chaînes. Parfois, il se dispute. Il leur dit « Va donc, espèce de pédonculé ». Voilà, si vous ne maîtrisez pas les races de chaînes, vous n'avez pas la blague. Apparemment, ici, personne n'est branché nature. Hein, toujours dur, le public parisien, on m'avait dit.
Trop grand.
Tout ça pour vous dire que je suis fâché avec la moitié des municipalités de France, donc c'est mon dernier spectacle. Plus personne ne va vouloir m'accueillir et j'attends les dossiers sur Angers, par pitié.
Merci, Tanguy Passion.
Tanguy sur scène.
Alors, quelle mairie va-t-il faire tomber?
La mairie de Cérisse. Attention, Tanguy arrive, c'est en Seine-et-Marne. Et le 21, il sera à Mérignac, c'est près de Bordeaux, bien évidemment.
Très bien. Jean-Christophe Ruffin, le nouveau Jean-Christophe Ruffin arrive et ça fait plaisir. Le revenant d'Albanie chez Calman Lévy. D'autres événements culturels, Leïla?
Si je vous dis Mylène Farmer, Claude Lelouch, Juliette Armanet, Juliette Binoche, Laurent Lafitte, je parle de quoi?
Les Jeux Olympiques.
De Cannes.
Absolument, les festivals de Cannes et pas les Jeux Olympiques. La 78e édition du Festival de Cannes du 13 au 25 mai. Pourquoi Mylène Farmer? Parce qu'elle est annoncée pour une performance musicale prenant la suite de Zao de Sagazan.
Elle va chanter en live?
Ouais. Et ouais, vraisemblablement. Oh. Juliette Binoche, alors on ne sait rien encore de la performance qu'elle va choisir, mais il va se passer quelque chose. Un jury qui sera présidé par Juliette Binoche, une cérémonie présentée par Laurent Lafitte. Quant à Juliette Armanet, c'est elle qui joue dans le film présenté en ouverture, Partir un jour, c'est le nom du film. Et Claude Lelouch, parce que le double visuel qui est tiré de son film Un homme et une femme, avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, qui sert d'affiche cette année. Film récompensé d'une palme d'or en 66. Une très très belle affiche, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais on voit ce couple s'enlacer sur la plage, en tout cas, et ça donne une envie d'élan. De liberté.
De câlin, visiblement.
De câlin, mais je la trouve superbe, cette affiche. Okay. Vraiment, il y a des années où bof, mais là, je la trouve... Pardon.
Tu parles de quelle année?
Tout ça pour parler du moment le plus éblouissant de votre vie. Un grand moment de joie, si vous deviez partager avec nous un moment de joie. J'ai l'impression qu'il faut aller le chercher du côté de l'alpinisme, mais peut-être pas.
Oui. Cachez votre joie. Cachez votre joie. Cachez votre joie.
Un moment éblouissant. Un moment de joie.
Oui.
Est-ce que la joie, je
regarde pas tellement derrière, moi.
Retournez-vous.
Oui.
Il y a une autre question.
Il y a forcément un moment mémorable.
Évidemment.
Un grand moment de joie ou de beauté.
Ou alors peut-être que ça vous gêne d'en parler. Non, j'allais dire, mais ça me passe par la tête, mais c'est peut-être que je vais trouver autre chose.
Oui, mais ça ira bien comme ça.
On va être bien. Mais quand j'ai été élu à l'académie, j'étais au Sénégal.
Oui.
Et c'est pas tellement l'académie en tant que telle, bon, je veux dire, voilà, c'est un honneur, ce que vous voulez, mais c'était symbiose avec le Sénégal, pays de Senghor. Et j'ai tout d'un coup vu ce pays, si vous voulez, à travers moi, mais évidemment en pensant à Senghor, vibrer dans un lien qui est très fort et qu'on trouve pas dans d'autres pays, parce que finalement, l'académie française, vous en parlez, je sais pas quoi, au Bangladesh, tout le monde s'en fout. Et même beaucoup plus près encore. Mais au Sénégal,
ça a du sens.
Ça a du sens et c'était merveilleux, si vous voulez, de faire ce cadeau en quelque sorte à ce pays.
Vous êtes émerveillé par des paysages, par des œuvres d'art, par des romans. Qu'est-ce qui vous touche?
Pas tellement les paysages en fait, parce que.
Pourtant, j'ai l'impression que vous les décrivez avec telle passion.
Je les décris, mais je suis pas capable de rester assis devant
une toile.
Vous dites que si on veut vous tuer, il faut vous allonger dans un fauteuil sur une plage.
Une plage, oui, ça
c'est votre mort.
C'est abominable. Oui, oui.
Moi, je veux bien. Oui, mourir comme ça.
On n'a pas tous les mêmes envies, apparemment.
Je m'emmerde. Vous voulez mourir comment?
Ben, pourquoi
mourir?
C'est tout de suite, là.
C'est prévu, non, mais
on a des projets pour vous.
C'est prévu, Jean-Christophe. Et vous jouez beaucoup avec la mort dans vos romans.
Oui.
J'imagine que ça renvoie forcément à la sienne aussi, d'en parler.
Oui, justement, je parlais de l'Académie, ça permettait de...
D'être immortel.
Oui. Justement, question suivante.
Je veux savoir comment il veut mourir.
Il veut pas mourir.
Si, il a sort forcément, vous y avez...
Mais tu sais, toi, comment tu veux mourir?
Ben, en dormant.
Ah, bon.
De ne pas être tué en Albanie.
Déjà, de rire en écoutant Morin.
Ah, voilà, ça c'est une belle mort, ça.
Ça c'est une belle mort.
Absolument.
Mais c'est une mort lente.
Oui.
Ouais, parce que déjà, il faut comprendre.
On cherche à présent un auteur traduit dans une trentaine de langues qui a été le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la collection de la Pléiade. C'était en 2016. Il a été prix Nobel de littérature. Il a même été, et il le sera toujours d'ailleurs, immortel.
Mario Vargas Llosa.
Absolument, qui est décédé il y a peu de temps, il y a à peine 2 semaines, qui a été élu à l'Académie française en 2021. Mmh. Il est décédé à Lima à l'âge de 89 ans. Est-ce qu'on peut délibérément quitter l'Académie française?
Comme ça, oui.
Non, mais c'est pas délibéré. C'est pas délibéré.
L'humour noir. L'humour noir de Jean-Christophe Ruffin.
Non, mais je veux dire, on n'a pas le droit de le quitter.
On ne peut pas la quitter.
Non,
on ne peut pas la quitter.
Enfin, on peut. Si, on peut la quitter, mais on ne peut pas vous remplacer tant que vous n'êtes pas mort. Parce que.
Donc, vous gardez un peu le siège, quoi. Vous le bloquez. Vous bloquez le siège. Le fauteuil, pardon.
Oui, parce que le siège, c'est pour emmener les enfants à la piscine.
Oui, bah oui, parce que.
C'est quelqu'un qui aurait été mal pensé, en fait.
Pardon, Jean-Christophe.
Parce qu'il faudrait que votre successeur fasse votre éloge. Et évidemment, on ne peut pas le faire pendant que vous êtes vivant, parce que vous pouvez pas... Ça doit être très sympa.
Ça veut dire que la disparition là, de cet académicien va relancer à nouveau un système d'élection.
Il y a plusieurs sièges en ce moment. Il y a plusieurs sièges.
Qui ne sont pas occupés.
Non.
Pourquoi
non.
Et ça met combien de temps à être comblé?
Parce que déjà, ils bossent sur le pape, ils ne peuvent pas bosser sur tous les...
Ouais. Non, mais ça met combien de temps?
Un conclave
Je ne sais pas combien il y en a, je crois que c'est 4 à l'heure actuelle. Oui.
Et donc ça va se faire tout d'un coup?
Alors non, ça se fait progressivement.
Je ne veux pas les tuer non plus.
Non, mais parce que j'imagine que les candidatures sont nombreuses.
Oui. Oh, bof. Mais vous avez des sièges qui sont plus des fauteuils, qui sont plus difficiles à se remplacer que d'autres. Par exemple, Hélène Carrère-Dancos, ça avait un tel poids qu'on ne peut pas ouvrir sa succession comme ça.
Est-ce qu'elle a été remplacée? Parce que vous avez été candidat, je crois, à sa succession.
Ah non, ça c'est autre chose.
C'était
pour être secrétaire perpétuel.
Ouais. Oui.
Mais on était 2 candidats. Enfin, il y en avait en réalité 15, c'était Amine Malouf.
Oui.
Puis moi, je trouvais qu'il fallait un peu... c'était pas la Corée du Nord, il fallait avoir une alternative.
Oui, oui.
Je me suis présenté, sans beaucoup de chance d'être
élu.
Et pour tout vous dire, je peux faire la confidence puisqu'en entre nous,
vous êtes
je suis bien content.
Vous êtes soulagé.
Oui, parce que c'est un travail... c'est très, très... c'est beaucoup de réunions, et j'aurais certainement pas pu parler de l'Albanie comme ça si je devais... Non, mais vous voyez...
Un droit de réserve.
Il y a une responsabilité tout d'un coup.
C'est pas tout le monde. Oui, c'est surtout que c'est du boulot, c'est tout, c'est tout.
Pour répondre à la question de Daniel Morin, comment se décide justement
c'est un grand mystère.
On candidate, il y a des gens qui postulent, qui se réunissent pour voter.
On fait campagne.
N'importe qui peut postuler. Hein. Ouais. Une année, on a reçu une lettre d'un garçon qui avait 18 ans. Et sa lettre commençait comme ça. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de proposer ma candidature.
C'est drôle.
Oui, et en fait, on est obligé de l'accepter, c'est-à-dire...
La candidature,
voilà. C'est-à-dire qu'il figure n'importe qui, tout le monde le droit de candidater.
Alors, c'est tous les combien, les délibérés, réunions pour dire si on accepte ou pas?
Il faut des morts pour ça.
Oui, mais là, vous dites il y a quatre.
Ah oui, ça va dépendre du calendrier, là, je ne sais pas quand elle sera...
On prend son temps, quoi.
Je ne pas la retaquer au niveau boulot, quand même.
Ils sont immortels, ils sont foutus, ils ont le temps. Ils ont tout le temps. Jean-Christophe Ruffin, vous avez publié le 6 mars en livre de poche Notre otage à Acapulco. Vous présidez également la fondation Sanofi Espoir, dont la mission est de...
Ah non, c'est fini, ça.
Ah pardon, longtemps. J'en parle plus. Alors, d'accord, très bien.
Tu peux l'épuiser non plus.
Non. Je peux parler d'un été avec Alexandre Dumas, donc voilà. C'est publié aux éditions Équateur Parallèle et ça sera tous les jours sur Inter.
Tous les matins.
Ouais.
Tous les
matins. Une petite dose de Ruffin.
Voilà, tous les matins. De Dumas surtout.
Oui,
Mais c'était passionnant de faire ça. Mmh. Je l'ai écrit en Albanie d'ailleurs. Je suis allé travailler tout le mois de janvier là-bas. chez des amis et chez un ami. Et c'était j'avais 25 kilos de bagages, que des livres.
Sincèrement, vous dites et que vous écrivez vite, mais est-ce que vous prenez énormément de temps à vous documenter, à alimenter ce qui va ensuite venir dans un jaillissement ?
Bien sûr, mais la documentation, vous savez, il faut l'oublier quand on commence à écrire. Il faut savoir où sont les choses, il faut savoir où les trouver, mais il ne faut pas donner un cours, il ne faut surtout pas essayer d'utiliser tout ce qu'on a. C'est un peu comme la cuisine, hein. faut vraiment, si vous voulez faire un plat, il ne faut pas tout mettre, il faut vraiment garder que
l'essentiel. Oui, ou comme un acteur qui connaît par cœur son texte au point de pouvoir l'interpréter comme s'il
exactement,
l'avait oublié.
Exactement.
Daniel Morin, des excuses à présenter, s'il te plaît.
Absolument. Et déjà des excuses, je suis désolé pour nous. Oui, nous, qui avons été méprisés, je trouve, par Jean-Christophe Ruffin, quand il a dit ne pas se souvenir de façon très claire être venu ou pas dans l'émission pour son livre Checkpoint. Mais quelle humiliation. Alors je vais vous dire, c'était le mercredi 15 avril 2015. Je m'en souviens parfaitement. Nagui avait posé des questions, vous aviez essayé de répondre, puis vous étiez mis à pleurer. Enfin bref, c'était une émission qui était géniale. Écoutez-la. Désolé pour tous les voyageurs SNCF qui doivent passer par Dax et qui se sont dit si Pastureau il joue du piano dans les gares, il va peut-être chanter à Dax son spectacle et ce sera gratuit. Alors non les amis, c'est pas possible. Déjà, Tanguy ne chante pas et surtout il ne fait jamais, jamais, jamais rien de gratos. Désolé pour tous ceux qui ne nous comprennent pas, Leïla et moi.
Oui.
Oui, nous sommes pour les exécutions capitales propres. Bien expliqué, de façon claire et précise. Alors oui, c'est dur, c'est implacable, mais on a des valeurs, on est pour les traditions. Ouais. C'est pas de notre faute si vous aimez vous vautrer dans l'approximatif et le travail amateur.
Pas faux.
Voilà, si vous êtes épanoui dans le bordel, tant mieux pour vous. Mais sachez que si on vous croise avec Leïla, on vous butera, mais ce sera propre à l'albanaise.
Voilà. Merci Jean-Christophe Ruffin, bravo, le revenant d'Albanie chez Calman Lévy, et puis un été avec Alexandre Dumas, ça sera tous les matins sur Inter, tout cet été est déjà disponible aux éditions Équateur Parallèle. Portez-vous bien, cher immortel.
Merci beaucoup.
À bientôt. Demain, Camille Chamou sera notre invitée.